Olivier
sur le DAB+.
Sur le DAB+.
Make a new life, don't mean we gon' do right tonight. You can try to change to make a new life, don't mean we gon' do right tonight.
Hey mother, don't let them know you. They hunger to hold you down and control you. Hey lover, don't let them love you. They'll lay on top of you to stay above you.
Make a new life, don't mean we gon' do right tonight. You can try to change to make a new life, don't mean we gon' do right tonight. You can try to change to make a new life, don't mean we gon' do right tonight. You can try to change to make a new life, don't mean we gon' do right tonight.
We all need something we can stake the blame on. It can't be your dance that made this rainstorm. It must be the alcohol, and you hate this place cause the town too small. And everybody there so fake, be a brand new day if they was half awake. Smiling your face like, yes sir, wait until you turn your back so they can whisper. And you ain't trying to love none of them, nah, you know better, right? You learn something. But even if the first few burst through, they only pursue cause they wanna hurt you. It comes with the smoker's cough, gon' turn it on until it's broken off. Cause suffered and crushed is just not enough. They wanna hold you down until they lock you up.
You can try to change to make a new life, don't mean we gon' do right tonight. You can try to change to make a new life, don't mean we gon' do right tonight. You can try to change to make a new life, don't mean we gon' do right tonight. You can try to change to make a new life, don't mean we gon' do right tonight.
Hey sister, don't let them touch you. So friendly when they're close enough to cut you. Hey mister, don't let them break you.
In the days we listen reggae music, pancassette.
A freedom, we say, free speech, free movement. I don't know, independence, the whole independence record. And we are say, run it from yard.
I beg you, free up the drum, we say, free up the bass. Free up the rhythm, make me nice up the place. Free up the words and the power and sound. I strictly free the music, just around the town. I say, whoa, 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 whoa. This are the freedom music, music, independence music, music. I beg you free up the drum, they say free up the bass. Free up the rhythm, make me nice up the place. Free up the words and the former and sound.
Vous écoutez RFI, il est 7h à Paris, 8h à Beyrouth.
RFI Matin, Andréane Mélard.
Bonjour à vous, RFI en journée spéciale ce mercredi. Le Liban, après 3 mois d'une guerre sans merci entre Israël et le Hezbollah, notre équipe sur place dans la capitale libanaise vous attend pour une première édition spéciale tout à l'heure entre 8h10 et 9h. Et vous retrouverez ensuite ce midi et ce soir avant la diffusion d'un grand concert de soutien pour le Liban. Tout ça, c'est sur RFI toute la journée. Bienvenue et bonjour Martin Guez.
Et bonjour André Mélard, bonjour à toutes et à tous.
À la une de votre journal, Martin, c'est 3 mois de guerre au Liban.
Qui rappelle les occupations illégales du pays par Israël en 1982 ou en 2000. L'armée de l'État hébreu qui a franchi le fleuve Litani dans le sud du pays et qui s'est tempérée du stratégique château de Beaufort ces derniers jours. Le cessez-le-feu décrété le 17 avril dernier paraît bien loin au moment où diplomates libanais et israéliens sont pourtant réunis à Washington. Les Libanais à nouveau à l'épreuve de la guerre. On y revient tout au long de la journée depuis Beyrouth sur RFI. Édition spéciale, vous l'avez dit, entrée à suivre ce matin, ce midi et ce soir autour de Romain Ozui. Autre guerre en Ukraine cette fois, où Kiev grignote du terrain et où la Russie ne relâche pas l'étau et ne cesse pas ses bombardements. Nous reviendrons aussi dans ce journal sur la tournée chez ses voisins de l'Alliance des États du Sahel de Romuald Ouadani, le nouveau président du Bénin, et sur la violence qui ont suivi le sacre du PSG en France. Des débordements ô combien commentés, il ne manquait que la réaction du Premier ministre Sébastien Lecornu. C'est désormais chose faite, comme vous l'entendrez en fin de journal.
Israël poursuit ses frappes au Liban, et cela malgré les négociations et les promesses d'apaisement venues de Washington.
Trois mois d'une guerre qui ne baisse pas en intensité. Les nouvelles frappes aériennes israéliennes ont fait au moins 5 morts cette nuit. C'est ce qu'annonce le ministère de la Santé libanais. Un conflit entre Israël et le Hezbollah débuté le 2 mars dernier, qui a fait près de 3500 morts au Liban. 1 million de Libanais ont été déplacés. Des frappes qui visent essentiellement le sud du pays, où l'armée israélienne s'est progressivement établie. Elle a d'ailleurs appelé hier à évacuer la grande ville de Nabatieh. Des bombardements israéliens qui ont aussi pris pour cible la banlieue sud de Beyrouth, l'un des fiefs du Hezbollah. C'est là que vit Ali, jeune Libanais qui refuse de quitter la maison familiale. Et ce, malgré les bombardements. Nos envoyés spéciaux à Beyrouth, Nicolas Falaise et Jade Coury, l'ont rencontré. Reportage.
Un drone israélien bourdonne dans le ciel de Beyrouth et sur ce promontoire qui offre une vue plongeante sur son quartier, Ali nous montre la Dahiyeh, la banlieue sud où il a grandi. Un quartier chiite, un fief du Hezbollah qui a reçu son lot de bombes israéliennes. L'étudiant de 24 ans y habite désormais seul, dans la maison familiale. Ses parents ont rejoint la cohorte des déplacés du Liban après un bombardement qui a touché leur demeure. Ali est revenu remettre un peu d'ordre dans la maison endommagée et il a choisi de rester. C'est un défi personnel, nous dit-il. Rien ne m'obligera à quitter ma maison, même si on veut m'en faire sortir par la force. Les parents d'Ali n'ont de cesse de lui demander de les rejoindre. Le jeune homme s'en amuserait presque. Même si je sens qu'il y a un danger pour moi, l'idée d'abandonner cette maison vide et de partir me donnerait l'impression de la trahir, explique le jeune homme. Lundi encore, Israël a annoncé des frappes imminentes sur la banlieue sud de Beyrouth, provoquant une nouvelle vague d'exode de ses habitants. Ali, lui, n'a pas quitté la maison familiale. Jade Coury, Nicolas Falaise, Beyrouth, RFI.
Israël et le Liban qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques, mais qui ont dépêché des diplomates à Washington pour une 4e session de négociations depuis le 2 mars. Des délégations qui se sont rencontrées hier au département d'État américain. La Maison-Blanche salue des progrès, négociations auxquelles s'oppose le Hezbollah. Autre ton du côté du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a lui déclaré que son armée continuerait à opérer comme prévu dans le sud du Liban et qui a annoncé débloquer une enveloppe de plus de 4,5 milliards de dollars pour sécuriser le nord d'Israël. 3 mois de guerre au Liban et ses conséquences pour la population libanaise sur lesquelles nous revenons dans un peu plus d'une heure. Journée spéciale et première édition spéciale autour de Romain Ozui et de ses invités à suivre à partir de 6h10 temps universel en direct de Beyrouth.
C'est un symbole fort pour Kiev pour le 2e mois de suite. Martin, l'Ukraine reprend du terrain à la Russie, ce qui n'empêche pas de nouveaux bombardements russes d'ampleur.
Des gains marginaux, Andréane, 280 km² repris, 0,07% du territoire ukrainien, là où la Russie en possède 19%. La Russie qui poursuit ses bombardements massifs. Des frappes fermement condamnées par Antonio Guterres, le chef de l'ONU, qui rappelle que ces attaques contre des civils sont contraires au droit humanitaire international. Frappes qui ont fait 23 morts ce mardi, selon le dernier bilan, dont 16 dans la seule ville de Dnipro et 7 dans la capitale Kiev, où se trouve notre correspondante Emmanuel Chaz, et où les habitants ont encore dû passer une nouvelle nuit aux abris.
Entre les frappes du 24 mai et celles d'hier, le quartier de Loukianivka, en plein cœur de Kiev, est défiguré. Ici, de plus en plus d'immeubles sont éventrés par les bombardements. Victoria, accompagnée de sa mère et de son fils adolescent, rentre chez elle, épuisée par la nuit dernière.
Les drones volaient les uns après les autres, tous derrière la maison. C'était terrifiant. Et quand ils ont commencé à exploser, c'était juste au-dessus de nos têtes. Effrayant, c'est un euphémisme. Et on ne sait pas quoi faire, car courir tout le temps aux abris, c'est aussi mentalement très difficile.
Alors qu'une nouvelle alerte aérienne se fait entendre, pas question pour Victoria de passer la nuit dans un abri. Mais Andy et Véronica, eux, y retournent après s'y être déjà réfugiés en plein milieu des bombardements la nuit précédente.
Comme vous pouvez le voir, les appartements sont sans fenêtres, sans rien. Et à côté du parking, pas dans le parking, les gens qui ont fui les immeubles voisins, ils ont été projetés ici, blessés par des éclats d'obus. Il y a aussi des enfants et des hommes.
Alors que l'obscurité tombe sur Kiev et que chaque nuit est synonyme de danger, des résidents continuent à déblayer leurs appartements et à sauver ce qui peut l'être. Lorsqu'ils ont encore un toit et malgré la menace de nouveaux bombardements, pas question pour eux de quitter les lieux. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Et ce matin, une frappe de drone ukrainien. Elle touchait un bus reliant Moscou à Simferopol, en Crimée annexée par la Russie. Frappe à hauteur de la ville de Donetsk, en Ukraine, qui a fait 7 morts, 7 civils, selon la Russie. Journée chargée ce mardi pour Romuald Ouadani, le nouveau président béninois, en visite chez ses voisins. Le matin, à Niamey, accueilli par le général Abdourahman Tiani dans la capitale nigérienne. Romuald Ouadani qui a ensuite pris la direction d'une autre capitale d'un pays de l'AES, à savoir Ouagadougou. Au Burkina Faso, il a rencontré dans l'après-midi le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont scellé dans un communiqué la relance de la coopération sécuritaire et économique entre les deux pays. Alexis Guilleux.
Une visite d'amitié et de travail pour donner un nouvel élan aux relations séculaires qui lient le Bénin et le Burkina Faso. Romuald Ouadani et Ibrahim Traoré veulent, selon le communiqué final conjoint, bâtir un partenariat renouvelé, fondé sur la confiance, le respect mutuel et la recherche de solutions concertées aux défis communs. Parmi ces défis, la situation sécuritaire, les deux dirigeants insistent sur l'impérieuse nécessité de consolider la coopération entre États voisins face au terrorisme, à la criminalité transfrontalière organisée et à toutes les formes d'extrémisme violent. Sur le plan économique est évoquée l'importance du port de Cotonou dans l'approvisionnement du Burkina Faso. Les deux dirigeants s'engagent à renforcer leur coopération en matière de transport et de logistique et à encourager échanges économiques et investissements. La commission mixte de coopération Burkina Faso-Bénin doit être relancée dans les meilleurs délais. Le capitaine Ibrahim Traoré est désormais invité à se rendre à son tour en visite à Cotonou. Invitation acceptée, la date et les modalités seront fixées par voie diplomatique.
Alexis Guilleux, l'actualité africaine marquée également par ce bilan revu à la baisse concernant l'épidémie d'Ebola. Selon l'OMS, le nombre de cas suspects en RDC et en Ouganda a été divisé par 8, tombant à 116 cas suspects et 330 confirmés. L'Organisation mondiale de la santé qui doit faire un nouveau point sur l'épidémie ce mercredi depuis son siège à Genève.
À Washington, l'administration Trump rétropédale face à ce que les opposants démocrates avaient qualifié de caisse noire judiciaire.
Un fonds doté de près de 2 milliards de dollars qui aurait pu servir, selon ses détracteurs, à rétribuer les partisans de Donald Trump poursuivis en justice, comme par exemple les personnes condamnées pour l'assaut du Capitole. Un projet anti-instrumentalisation de la justice, comme l'avait qualifié le ministre par intérim Todd Blanche, projet gelé par une décision de justice et finalement abandonné par l'administration Trump qui regrette mais respecte cette décision de justice dans un communiqué. Les États-Unis par ailleurs, où Donald Trump signe un décret pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle, restriction a minima. Le président américain étant lui-même friand d'IA, mais les récentes menaces présentées par cette technologie ont forcé Donald Trump à revoir sa copie en la matière, Nathanaël Vitran.
Désormais, le gouvernement américain, le ministère de l'économie, de la guerre et bien sûr la Maison-Blanche auront accès au nouveau modèle d'IA pendant un mois complet avant qu'il ne soit mis à la disposition du public. Petit bémol, cette disposition n'est pas contraignante, les entreprises concernées ne seront pas obligées de s'y conformer. Mais même à minima, ce décret est une sacrée volte-face pour un président persuadé que toute régulation de l'intelligence artificielle constituerait un boulet pour les entreprises américaines engagées dans une course acharnée avec leurs concurrentes chinoises. Alors que s'est-il passé ? Eh bien entre les deux, Anthropic a sorti Mythos, un modèle d'intelligence artificielle spécialisé dans la cybersécurité, modèle si puissant que l'entreprise a d'elle-même décidé de retarder son déploiement public. Le risque d'une exploitation massive des vulnérabilités informatiques des banques, par exemple, a donné des sueurs froides aux autorités du monde entier. L'affaire a servi de coup de semonce, un avertissement entendu visiblement jusqu'à la Maison-Blanche.
Et puis il y a toujours en Corée du Sud, cette fois où les petits candidats s'en donnent à cœur joie avant les élections municipales de ce mercredi. Les grands partis restent prudents en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle, quand beaucoup d'autres s'en sont servis pour mener campagne, non sans certaines dérives. Silvio Fioretti.
Si les plus grands partis restent prudents quant à l'utilisation de l'IA, pour les plus petits, elle peut venir compenser un manque de structure ou de budget, comme pour le Parti de la Réforme, explique son attaché de presse Kim Yong-min.
Nous avons créé une application, un gestionnaire de campagne par IA qui permet aux candidats de gérer plus efficacement les tâches répétitives liées à la campagne. Il y a aussi l'outil de vérification des promesses basé sur l'IA, qui vérifie si les engagements d'un candidat sont en lien avec les enjeux locaux, s'ils sont cohérents avec l'orientation politique du parti, partis et s'ils sont réellement réalisables.
S'il est interdit pour les partis de diffuser des images ou des vidéos faites par IA, leurs sympathisants, eux, y ont recours, notamment au deepfake, pour décrédibiliser leurs adversaires, explique Cho Oje, représentant du parti Reconstruire la Corée.
Certains soutiens d'autres partis modifient nos images de campagne ou en créent des fausses avec des propos ridicules pour nous humilier. Et avec la technologie d'aujourd'hui, beaucoup peuvent tomber dans le panneau. Parfois, ça vient de nos propres soutiens qui ne maîtrisent pas les codes de la politique et diffusent, en pensant nous aider, des images qui en fait peuvent être mal interprétées par le reste des citoyens.
Une tâche complexe pour la commission électorale coréenne chargée de surveiller les scrutins. Près de 10 000 deepfakes politiques ont déjà été supprimés d'Internet par la commission, mais il reste difficile de contrôler tout ce qui peut être publié sur Internet. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Et enfin, les violences suite au sacre européen du PSG ne finissent plus de faire parler en France, Andréane, et éclipsent malheureusement les belles images de joie et de communion des supporters après la deuxième Ligue des Champions.